English USA vous présente African Voices in Conversation, des conversations en anglais qui ont attrait à la vie quotidienne au Sénégal. Pour télécharger ces leçons, allez sur le site internet www.lavoixdelamérique.com, cliquez sur « Apprenez l'anglais » et retrouvez les leçons d'anglais spéciales Sénégal. Bala est le tailleur le plus populaire de son quartier. Aujourd'hui, sa cliente et cousine, Rama, lui rend visite. Nous allons écouter cet entretien plutôt tendu. Vous répondrez par vrai ou faux, true or false, à ces énoncés. 1. Rama voulait une jupe. 2. Le boubou est pour la belle-mère de Rama. Vous allez maintenant répondre à ces trois questions. 1. Est-ce que Bala a tenu sa promesse? 2. Pour qui sont les boubous selon Bala? 3. Est-ce que Bala a déjà fait le boubou pour Rama? Vous entendrez comment exprimer un choix avec « I'd like to ». Vous entendrez comment se plaindre en utilisant l'expression « n'est-ce pas » en anglais? Nous allons écouter cet entretien plutôt tendu.
Hello, Bala. I want you to show me all your styles. Have you got catalogs? Let me see them.
Right away. My customers are all kings and queens in this shop.
Oh, Bala, stop it. You haven't finished my dress, have you?
I'm at the service of my royal clients. I do things the way they want it.
What is this? Is this a dress or a skirt? It looks like a child's dress.
It's not. It's a young girl's mini dress with beads and a scarf.
How lovely. It's very nice. I'd like you to make me a dress like this with flashing beads and colorful embroidery.
Like a rainbow. Is it going to be for you or for your daughter?
For me. I have no daughter and my son is only 2 years old. I am still young.
Don't get angry now, Rama. I'm gonna make it.
Before I forget, where is the boubou I asked you to make last week?
Rama, you've got so many fabrics here. You always change your mind, don't you?
I told you to make a boubou from the wax fabric I brought last week. You didn't keep your promise, did you?
It will be ready tomorrow. It's for your old grandmother, right?
I told you it was for my mother-in-law. Instead of a mini dress, I'd like a mini skirt. And don't forget my mother-in-law. I'd also like an evening gown for her.
What does your mother-in-law need an evening gown for?
Come on, Bala. She's not that old. She's going to see her husband after 4 years of separation.
All right, then. I'll make it. Anything for love. Say, Rama, your father-in-law needs a boubou as well, doesn't he? I can make one for tomorrow.
Ya Allah. So many things to make. You don't want to be overworked, do you?
Hey. As long as I get paid.
Vous avez entendu dans ce dialogue Bala et Rama. L'énoncé 1 est faux. Rama voulait une jupe. L'énoncé 2 est vrai. Le boubou est pour la belle-mère de Rama. Voilà les réponses aux questions. 1. Est-ce que Bala a tenu sa promesse? Non. 2. Pour qui sont les boubous, selon Bala? Pour les personnes âgées. 3. Est-ce que Bala a déjà fait le boubou pour Rama? Pas encore. Vous avez entendu Rama dire
« I'd like a mini skirt ».
On peut exprimer un choix en utilisant l'expression « I'd like ». Écoutez les autres exemples. « I'd like to take the red dress ». I'd like to visit the stadium, not the school. I'd like to drink tea. I don't drink coffee. Vous avez aussi entendu Rama et Bala dire
You haven't finished my dress, have you?
You always change your mind, don't you?
Pour dire n'est-ce pas, en anglais, elle a utilisé le tag question ou forme n'est-ce pas. Lorsque la phrase est négative, le tag question est affirmatif. Lorsque la phrase est affirmative, par contre, le tag question est négatif. Voilà des autres exemples. Rama was angry, wasn't she? Bala made the dress, didn't he? Répétez maintenant ce vocabulaire de la couture et de la mode. Modèle, styles. Jupe, skirt. Foulard, scarf. Robe, dress or gown. Perles, beads. Broderie, embroidery. Vous avez entendu dans ce dialogue Bala et Rama exprimer un choix avec I'd like to. Vous avez aussi entendu comment dire n'est-ce pas en anglais et entendu des mots relatifs aux vêtements. On se donne rendez-vous chez Bala le tailleur. Pour plus de renseignements au sujet des cours d'anglais, Learning English, allez au site internet suivant à americanenglish.state.gov ou à voalearningenglish.com. Welcome to Business English. Bienvenue à notre émission consacrée à l'anglais commercial aux États-Unis. Dans ce programme, vous participerez à des voyages d'affaires, à des conversations téléphoniques, à l'échange de messages e-mail et à des interviews. Au micro, Michel Joseph. Deux questions d'étiquette dans le milieu des affaires. Première question, les Américains dans les milieux d'affaires utilisent-ils leur prénom ou leur nom de famille?
Do Americans usually use their first name or last name in business?
First name, c'est le prénom. My first name is Michel. Last name, nom de famille. My last name is Joseph. What is your first name?
Quel est votre prénom?
À vous de me répondre.
What is your first name? What is your last name?
Quel est votre nom de famille?
Répondez-moi. What is your last name? Comme vous allez entendre, pour Gary, c'est une question difficile.
This is a difficult question. To be safe, use the name that the other person gives you.
This is a difficult question. C'est une question difficile. To be safe, use the name that the other person gives you. Pour être sûr de ne pas faire une gaffe, to be safe, donnez-lui le nom qu'il ou elle se donne, le prénom ou le nom de famille. Gary dit, quand il se présente, Please, call me Gary. Veuillez m'appeler Gary. Please, call me Gary. C'est ainsi que vous donnez la permission à l'autre personne de vous appeler d'une certaine façon. Écoutons la conversation qui suit à propos de la première question.
Hi, Elizabeth.
Hello, Gary. Our listeners have sent in some email questions, Gary. Our first question is, do Americans usually use their first name or last name in business?
Well, this is a difficult question. To be safe, use the name that the other person gives you. I always say, please call me Gary.
Gary dit, I always say, je dis toujours, always. I always say, please call me Gary. Littéralement, s'il vous plaît, s'il te plaît, appelle-moi Gary. Appelle-moi Gary. Please call me Miss Joseph. Please call me Mrs. Joseph. Ce qui nous amène à la prochaine question d'étiquette. Elizabeth demande à Gary, When speaking with women in business, quand on parle à des femmes dans un contexte d'affaires ou professionnel,
When speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs. or Ms.
When should we use? Quand doit-on se servir de? When should we use Miss, Mrs. or Ms. Miss, mademoiselle, ou, comme le dit Gary, for single women, pour les femmes célibataires. Single women, les femmes célibataires, miss. Ou bien, Mrs., madame, for married women, pour les femmes mariées, for married women.
Well, miss is for single women, Mrs. is for married women.
Ou encore, Ms., un mot nouveau qui est neutre et n'implique pas le statut de célibataire ou de marié à la femme en question.
Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married.
Écoutez la conversation qui suit.
Our next question is, when speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs. or Ms.?
Well, Miss is for single women, Mrs. is for married women. Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married. I always use Ms. because with Ms. I usually don't offend people.
What do most American women in business prefer?
I believe that most American women prefer Ms.
Thank you, Gary.
Finissez la phrase. Vous allez entendre le début et vous devez terminer la phrase. Écoutez et finissez la phrase.
Some people use their first name in business, but others prefer to use their last name.
Le nom de famille.
They prefer to use their last name.
Le nom de famille.
Most American women prefer to be addressed as Ms. They prefer to be addressed as Ms.
Ms, c'est neutre.
In the past, people used to address all married women as Mrs.
Et c'est tout pour cette leçon de Business English, l'anglais commercial. That's it for today. Until next time, à la prochaine fois. Au micro, Michel Joseph. Goodbye.
Hello and welcome to lesson number 86 of English USA. Bonjour et bienvenue à la leçon numéro 86 d'English USA. Aujourd'hui, Martin Lerner fait une interview avec un professeur d'histoire. Today, Martin Lerner is interviewing a history professor. Il lui pose des questions sur la guerre civile américaine. He's asking him questions on the American Civil War. Tous les deux se trouvent dans un champ de bataille. They are in a battlefield. Au cours de cette leçon, vous apprendrez à comparer des événements différents, dans le présent, dans le passé et dans une même époque. English USA est diffusé en direct de Washington au micro Michel Joseph. Vous allez apprendre à comparer des événements qui se sont déroulés dans le passé. Martin Lerner parle avec un professeur d'histoire américaine, a professor of American history, au sujet de la guerre civile, about the Civil War. Il dit, a group says the reason was slavery. Un groupe de gens disent que la raison de cette guerre était l'esclavage. A group says the reason was slavery. Some say it was economics. Certains disent que c'était à cause de raisons économiques. Some say it was economics. Lors de la guerre civile américaine, on appelait les habitants du Nord
the Northerners.
Et ceux du Sud, the Confederates.
Écoutons maintenant la conversation entre Martin et le professeur.
I wanted you to see the battlefield. I see what you mean. It's just open area. It was fields. There were farms here and a few houses. Where did the battles take place? Everywhere you can see. Soldiers from the north were on that hill. Soldiers from the south were over there, somewhere in front of those woods.
In fact, where those men are right now.
Yes, those men who are firing guns are acting out the early part of the battle. They are pretending to be soldiers during the Civil War.
Professor Atkins, why did the war begin?
That's a very difficult question. People seldom agree on the reasons for a war. Historians are still arguing about the reasons for the Civil War.
I suppose there are usually many reasons.
Yes. One group says the reason was slavery. Another group says it was politics. And another group says it was economics.
That's quite a few reasons.
We look at those reasons differently, too. At the time of the war, people saw them one way. Now we see them another way.
Let's talk about the people. I'm always interested in people. Tell me about the people first.
We know quite a lot about the soldiers. There were so many.
How many?
There were about 4 million soldiers.
From both sides, the North and the South?
Yes. But remember, they were all Americans.
Of course. That seems like a lot.
It was. More than 600,000 soldiers died in the war. In the Civil War, the fighting usually took place in open areas, like this.
Explain that, please.
The battles were often on farms. The soldiers were on hills and in valleys. They didn't fight in the cities.
In modern wars, they fight everywhere.
Pour comparer deux événements, on les place dans une période déterminée. Lorsqu'on parle, par exemple, de Civil War, et on dit de la guerre civile, et on dit More than 600,000 soldiers died. Plus de 600 000 soldats sont morts. On peut aussi parler d'une autre guerre et du nombre de soldats tués par rapport à celle-ci. Par exemple, in the Civil War, more than 600,000 soldiers died. In the First World War, dans la Première Guerre mondiale, un tel autre nombre sont morts. Écoutez les exemples qui suivent.
In the Civil War, more than 600,000 soldiers died. More recent wars have been worse for civilians. In the Civil War, the fighting usually took place in open areas. In modern wars, they fight everywhere.
Répondez aux questions de Martin et commencez vos réponses en mentionnant une période déterminée. Il vous demandera, par exemple, Where were you living 1 year ago? Où viviez-vous il y a un an?
More than 600,000 died in the Civil War.
About 116,000 died in World War I.
Most of the battles were in Europe.
There were none in the U.S.
Essayez de répondre aux questions de Martin, mais écoutez d'abord l'exemple qui vous est donné. L'exemple. Martin dit quelque chose et le professeur répond aussi en disant quelque chose d'autre. Toujours en parlant dans le passé. Donc c'est une comparaison. 45 people lived in this building. 45 personnes vivaient dans ce bâtiment. Le professeur dit lui aussi. 15 people lived in that building. Une quinzaine de personnes vivaient dans ce bâtiment. Maintenant, à vous d'essayer.
45 people lived in this building.
15 people lived in that building.
On Monday, I go to work.
On Monday, I go to work. Vous pouviez dire, On Friday, I go to work.
I lived in Chicago.
Et vous pouvez répondre, I lived in Kinshasa.
On Friday, we went to town.
Et vous pouvez dire, On Saturday, we went to town.
And that's it for lesson number 86 of English USA. Nous arrivons à la fin de la leçon 86 d'English USA. Vous pourrez maintenant comparer la guerre civile américaine, peut-être, avec une guerre française ou une guerre africaine. Mais ne pensant même pas à la guerre, on entend souvent dire que tout change. Vos parents, par exemple, vos grands-parents, décrivent leur vie, leur enfance, comme si c'était un autre monde. Et ils ont raison, la vie change rapidement. Donc, au lieu de faire la comparaison d'une guerre, pensez plutôt à votre vie en la comparant à celle de vos parents ou à celle de vos grands-parents. Comparez les changements que vous observez. In the meantime, entre-temps, have a great practice. Goodbye. Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30, TU.
Bonsoir, de nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia, pour ce dernier bulletin d'information de la soirée. Le président Barack Obama a exhorté aujourd'hui ses concitoyens à ne pas céder à l'hystérie ou la peur de l'Ebola en demandant aux gens de savoir raison garder. Il a déclaré dans son allocution hebdomadaire à la radio que les États-Unis pourraient bien voir d'autres cas isolés, mais qu'il est absolument confiant dans la capacité des autorités a empêché une sérieuse épidémie aux États-Unis. Les trois cas déjà diagnostiqués dans le pays n'équivalent pas à une épidémie. La maladie a fait en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone plus de 4500 morts et quelques 9200 cas ont été confirmés. Les États-Unis, a promis M. Obama, continueront de mener la réponse internationale en Afrique de l'Ouest pour étouffer à la source cette maladie. Le gouvernement du Nigeria compte discuter avec Boko Haram la semaine prochaine au Tchad des modalités de libération de plus de 200 lycéens, 200 lycéennes, enlevés en avril par les militants islamistes. Les deux parties ont accepté le cessez-le-feu hier. Hassan Tourkour, le principal conseiller présidentiel nigérien, a dit au service Hausa de la Voix de l'Amérique que Boko Haram a accepté en principe de libérer les 200 lycéennes. Il a exprimé un optimisme prudent tout en reconnaissant que les précédentes négociations n'avaient rien donné de positif. Jusqu'ici, aucun commentaire public de Boko Haram sur ces derniers développements, mais des informations sur de nouvelles attaques sanglantes contre des villages de l'État de Borno hier et aujourd'hui ont amené certains à se demander si Boko Haram n'avait pas déjà violé le cessez-le-feu. Mais le gouvernement nigérien assure que la trêve tient. Un collaborateur du président Jonathan a dit à la Voix de l'Amérique que la direction du groupe a entériné l'accord et que cette violence a été perpétrée par des groupes marginaux de combattants qui, vraisemblablement, ne sont pas encore au courant. Selon un correspondant de la Voix de l'Amérique, au moins 40 personnes ont été tuées dans ces attaques. Nouvelle tuerie dans l'est de la République démocratique du Congo, où des rebelles ougandais de l'ADF sont soupçonnés par les autorités d'avoir massacré au moins 21 personnes au nord Kivu la nuit dernière. Selon l'AFP, la plupart des victimes étaient des femmes et enfants tués avec des machettes, haches et houes. L'attaque a eu lieu à 45 km de Beni, où, dans la nuit de mercredi à jeudi, 26 personnes ont été tuées par les mêmes rebelles, ADF, disent les autorités. La coalition menée par les États-Unis ont effectué aujourd'hui encore des raids aériens sur des cibles djihadistes en Syrie, où les militants du groupe État islamique ont intensifié leurs efforts pour prendre la ville frontalière de Kobané, défendue par les combattants kurdes. Les forces alliées ont lancé au moins 5 raids à Kobané et plus sur les cibles État islamique en Irak. Les militants ont intensifié leur bombardement de Kobané et plusieurs obus sont tombés de l'autre côté de la frontière en Turquie. À Hong Kong, le gouvernement dit qu'il commencera vraisemblablement mardi les pourparlers avec les étudiants protestataires après des nuits d'accrochage entre les manifestants pro-démocratie et la police. Et enfin, les États-Unis et la Chine ont souligné la nécessité de surmonter la méfiance, de gérer leurs divergences et de coopérer dans des domaines clés tels que la lutte contre le terrorisme, le groupe État islamique et la propagation de l'épidémie d'Ebola. Ce qui s'est passé dans les conversations entre le secrétaire d'État John Kerry et le conseiller d'État chinois Yang Jiechun à Boston. Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
La bordure sud-ouest du désert du Sahara, qui comprend des parties de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, est connue comme le Sahel. C'est un écosystème aride, extrêmement fragile, qui même dans une bonne année a du mal à produire suffisamment de nourriture pour sa population. Le Sahel a souffert de crises d'insécurité alimentaire qui ont touché des millions de personnes en 2005, 2009, 2010 et 2012. C'est un cycle sans fin dans la région qui ne peut être empêché, mais peut être atténué. Avec des taux élevés de malnutrition des enfants, même sous les meilleures conditions, une mauvaise récolte peut exposer de millions de personnes à de sévères risques. Et nous savons qu'en cas de sécheresse, d'inondation ou d'invasion de criquets, les populations les plus vulnérables sont inévitablement les plus durement touchées, souvent sans la possibilité de récupérer avant de connaître de nouveaux chocs, a déclaré l'administratrice adjointe de l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, Nancy Lemberg, lors du lancement du plan d'intervention humanitaire des Nations Unies au début de février. Pour coïncider avec cette occasion, les États-Unis, à travers l'USAID, ont lancé un nouveau programme « Résilience améliorée au Sahel » ou « RISE », un effort étalé sur 5 ans et visant à renforcer la résilience dans les zones ciblées au Niger et au Burkina Faso. L'USAID s'engage à verser plus de 130 millions de dollars au cours des 2 premières années de cette initiative. Selon l'administratrice adjointe Lemberg, le programme donnera à environ 1,9 million de personnes les plus vulnérables de ces zones une chance de briser le cycle de la crise pour échapper à la pauvreté chronique et réduire leurs besoins d'aide humanitaire à l'avenir. Dans le même temps, l'USAID est en train de fournir un supplément de 85 millions de dollars en aide humanitaire en réponse à l'insécurité alimentaire aiguë au Mali, au Niger et au Tchad. Dans le Sahel, la population devrait doubler d'ici à 2050. Les défis augmentent de plus en plus. Les enjeux sont élevés et le temps n'est pas de notre côté, a déclaré l'administratrice adjointe Lemberg. Satisfaire les besoins de ces populations et travailler ensemble pour réduire ces besoins à la base sont des éléments essentiels de toute stratégie visant une plus grande sécurité alimentaire et la réalisation de l'objectif du président Obama et notre engagement global partagé de mettre fin à l'extrême pauvreté d'ici à 2030.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.